les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Bien sûr, chez Agatha Christie, dans l'univers littéraire et dans nos souvenirs de lecteurs, souvenirs ravivés par des relectures, il y a avant tout le détective belge à la tête d'œuf et à la moustache impressionnante, Hercule Poirot. Mais Miss Marple, ce n'est pas rien Miss Marple. Qu'elle soit dans sa campagne à Sainte Mary Mead ou en vacances lointaines ou en villégiature anglaise, elle sait bien observer, comparer tel personnage avec tel autre, rencontré jadis, et surtout, et heureusement, attirer le crime. Avez-vous lu La plume empoisonnée ? Les éditions du Masque viennent de republier ce roman, qui date de 1942, avec une couverture illustrée par Martine Parr, ainsi que Les dix petits nègres, Témoins indésirables, La maison biscornue et Le meurtre de Roger Ackroyd. Dans La plume empoisonnée, le roman, Miss Marple apparaît peu. Dans l'adaptation pour les maîtres du mystère qui vient, elle est bien présente et, curieusement, mais pourquoi pas, elle a une voix un petit peu sévère. Première diffusion sur la chaîne parisienne, le 25 novembre 1958.
Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir « La plume empoisonnée », d'après le roman d'Agatha Christie, dans une adaptation radiophonique d'Hélène Misserly. Avec Denise Jans, sociétaire de la Comédie-Française, dans le rôle de Miss Marple. Et Madeleine Lambert, André Var, Jean Topard, Laurence Weber, Jean Bolot, Jeanne Dorival, Anne-Marie Duvernay, Simone Mathil, Geneviève Morel et Gaëtan Jor. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son, Jean Delanduc. Bruitage, Jean-René Niclès. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard.
Miss Marple, ne restez donc pas toute seule dans votre coin avec ce ravissant tricot. Venez prendre ma place au bridge.
Vraiment pas, ma chère. Ne vous occupez pas de moi, je suis très bien.
Alors je reste un peu auprès de vous. Je suis si fatiguée par ces migraines continuelles, vous n'imaginez pas. Chaque fois que j'en sois, j'ai la migraine. Dick ne veut pas le croire et pourtant c'est vrai.
Hein?
Aujourd'hui surtout, où rien ne tourne comme je voudrais. Nous avions prévu deux tables et les Burton ne sont pas encore là. Vous ne les connaissez pas, je crois.
Non, mais je vais.
Ils ne sont à Limstock que depuis une semaine. Lui est un ancien aviateur, je crois. Mmh. Il a eu un accident terrible. On l'a ramassé en miettes sous son avion. Un homme charmant, à part ça.
À part les miettes ?
À part sa sœur. Ah, une jeune personne de 25 ans qui n'a pas du tout bon genre, vous savez. Mais Jerry Burton a beaucoup de courage. Forcément, il appartient à une excellente famille de Londres.
Et que fait-il à Limstock ?
Eh bien, son médecin lui a conseillé pour se remettre de vivre un peu à la campagne, dans la région la plus paisible qu'il puisse trouver. Il avait les nerfs ébranlés, vous comprenez. Johanna est passée par Limstock.
Pardon, ma chère, mais qui est Johanna ?
Sa sœur, naturellement. Ouais. Le village lui a plu. Notre Limstock est un vrai petit paradis victorien, vous comprenez, avec ses petites rues si calmes, ses collines tout autour et sa bonne société.
Victorienne aussi.
Pardon ?
Non, rien. Il est donc venu se recoller à Limstock, votre monsieur Burton.
Oui, et il va beaucoup mieux. C'est si merveilleusement reposant ici. On sent que rien ne peut y arriver. Johanna a eu la chance de louer la villa d'Emily Barton.
Une parente à elle ?
Pas du tout, non.
Pourtant, ils ont le même nom.
Mais non, Miss Marple. Emily s'appelle Barton avec un A. Et Jerry Burton avec un U.
Avec un U. Et vous n'aimez pas sa sœur ?
Je dis cela, non. Seulement, elle a un genre très peu, comment dire, très peu adapté à Limstock. Tapageur. Voilà le mot, tapageur. N'est-ce pas, docteur Griffith ?
Madame Symington.
N'est-ce pas que la sœur de votre malade, Judy Burton, un genre tapageur?
Je la connais trop peu pour la juger, Madame Symington.
Lucie, vous invitez vos réclames.
Oh, ne puis-je vraiment avoir un instant de repos? La vie d'une femme mariée est un calvaire, Miss Marple. Mmh. Entre mes deux garçons et mon mari, il me semble parfois que je deviens folle. Excusez-moi.
Ta-ta-ta. Il n'a pas plus la migraine que moi, vous savez, docteur.
Si, Miss Marple, de temps en temps.
Elle me rappelle la chaisière de Sainte-Mère-Emède. Tout le temps à courir pour se plaindre de ses varices et traînant à l'église du matin au soir quand l'odeur de l'encens l'enrhumait. Pourquoi n'a-t-elle pas parlé de sa fille, Meghan?
C'est une fille du premier lit.
Ah, ainsi ce bon notaire est son second mari. Et elle n'aime pas sa fille.
Oh, je n'irai pas jusque-là.
Allons donc, cher docteur. Vous connaissez la nature humaine aussi bien que moi. Pour qu'elle n'ose pas même s'en plaindre, il faut qu'elle la déteste. Tiens, voici les Burton, je pense.
Cher Miss Burton, cher Monsieur Burton, mais comme vous êtes gentil d'être venu.
Bravo! Il n'a plus ses béquilles.
Eh oui, il marche comme un grand, avec des cannes.
Joanna, s'il te plaît.
Venez vite vous asseoir, cher Monsieur Burton. Dick!
Et quoi, cher ami?
Emmenez Miss Burton. Ou puis-je dire Joanna?
Mais je vous en prie, Madame Symington. Ou puis-je dire Lucie?
Faites. Dick, vous présenterez le colonel à Joanna.
Un colonel? Mais comme c'est excitant. Vous avez donc aussi des colonels à Limstock.
Venez, chère mademoiselle.
Et vous, Jerry, suivez-moi. Je vais vous trouver un bon petit fauteuil près d'une délicieuse amie. Un peu originale, mais si charmante à son âge.
Elle est très jeune?
Très âgée, au contraire.
Vous savez, je n'ai aucun besoin de m'asseoir, au fond.
Mais si! Miss Marple, voici Jerry Burton. Docteur, trouvez-lui un bon fauteuil.
Oui.
Ainsi, c'est vous, l'aviateur?
Oui, mademoiselle. C'est moi qui l'ai été autrefois.
Vous vous remettrez très vite ici. C'est si calme.
Je l'ai cru jusqu'à ce matin, Miss Marple. Limstock, un village où il n'arrive rien. Rien qu'une lettre anonyme.
Une lettre anonyme? Mais c'est passionnant, ça.
Vous en avez reçu une, vous aussi?
Pourquoi aussi?
Parce qu'il en arrive pas mal depuis quelque temps à Limstock.
Ici?
Oui, Burton. J'ai eu la mienne. Symington également, et quelques-uns de mes malades en ont reçu d'assez ignobles.
À Limstock? Un village aussi paisible, aussi calme.
La nature humaine étant ce qu'elle est, cher monsieur, c'est toujours dans les villages les plus paisibles que ce genre d'épidémie se propage. Ceux qui n'ont pas la paix en eux répugnent à la voir autour d'eux.
Mais vous parlez d'épidémie, mademoiselle. Nous n'en sommes pas là, j'espère.
Je n'en sais rien, Burton. Ça gagne vite en général. Que racontait votre lettre?
À vrai dire, ce n'est pas la mienne, mais celle de ma sœur.
Ah, la ravissante personne avec qui vous êtes entrée.
On a osé insulter mademoiselle votre sœur?
On a même osé lui dire qu'elle n'était pas ma sœur. Oh,
comme elle a dû être bouleversée.
Oh, amusée, plutôt.
C'est ridicule.
D'en rire?
D'en rire aussi, oui. Mais d'aller écrire ça. La nature humaine étant ce qu'elle est, si votre sœur n'était pas votre sœur, elle essaierait davantage de le paraître. Voyez-vous, dans Sainte-Mère-Emède, mon village, nous avons eu un archéologue qui est venu avec sa soi-disante nièce. J'ai tout de suite vu qu'elle n'était pas sa nièce, au mal qu'elle se donnait pour avoir l'air comme il faut, allant jusqu'à porter des lunettes. Et naturellement, elle n'avait pas besoin de lunettes. On veut toujours trop bien faire, voyez-vous. L'auteur des lettres semble tout ignorer de la nature humaine.
Elle ne vise pas deux ou trois personnes bien définies dont on veut se venger, mais n'importe qui. Et en disant n'importe quoi.
Peut-être que l'auteur veut se venger de tout le genre humain.
Non, alors il s'y prend bien mal.
Je n'en sais rien, Burton. Jusqu'à présent, les lettres sont tombées à faux. Mais si, par hasard, un jour, l'une d'elles tombait juste, qui peut dire ce qui arriverait?
Pourquoi serait-ce par hasard, docteur?
Je suis de son avis, mademoiselle. L'auteur est sans doute une vieille folle stupide, une obsédée sexuelle. Quelques demi-sorcières, comme il y en a dans toutes les campagnes.
Oh,
vous parlez de Madame Clich?
Mais pas du tout, Aimée.
Oh, c'est pourtant la seule sorcière de la région. Oh, comme c'est joli ce que vous tricotez, Miss Marple.
N'est-ce pas?
Vous êtes comme moi, toujours occupée. C'est le secret du bonheur, dit-on.
Il y en a d'autres.
Ah, sûrement. Mais le premier est de savoir s'occuper. Voyez Meghan, la belle fille de Symington. N'est-ce pas une honte qu'elle soit toujours les bras ballants, une fille de près de 20 ans?
Aimée, voyons.
Mais c'est vrai que deux fois ai-je voulu l'enrôler dans mes guides. Eh bien non, elle ne veut rien savoir. Cela désespère sa mère, qui est une femme assez sotte, il faut bien le dire, mais qui a tout de même essayé de lui donner goût au travail. Il y a tant à faire dans la vie. Vous ne trouvez pas, M. Burton?
Sans doute, mademoiselle.
Ainsi, croyez-vous que je m'ennuie, moi qui vous parle? Je mène la vie la plus passionnante du monde et j'ose dire que j'en suis bien heureuse.
Et
mais cette Meghan, qui n'a même pas l'idée de venir aider sa mère à servir le thé aujourd'hui, quand elle sait combien la pauvre femme est lasse. Oh, c'est une croix pour sa famille.
Oui, oui.
Surtout pour son beau-père qui est si sensible et si raffiné. Owen, viens et nous fais signe.
Mais je te suis. À tout à l'heure, mademoiselle.
Ouf. Elle vous agace, cette pauvre aimée, n'est-ce pas?
Mais pourquoi dites-vous cette pauvre aimée, mademoiselle? Elle respire la joie de vivre.
Bien sûr. Elle me rappelle le facteur de mon village. Il chantait toute la journée. Un soir, on l'a trouvé pendu.
Alors vous croyez que mademoiselle Griffiths n'est pas heureuse?
Elle me rappelle ce facteur, voilà tout. Avez-vous gardé votre lettre anonyme?
Ma sœur l'a gardée, oui.
L'a-t-elle ici?
Non, mais je la connais par cœur. Cela disait, vilaine poupée peinture lurée, va cacher ailleurs tes sales amours avec ton prétendu frère qui... Excusez-moi de censurer.
Et cela a fait rire votre sœur?
Oh, Johanna n'a pas peur des mots, mais je pense qu'elle a ri un peu jaune, comme moi. Et encore plus quand notre petite femme de ménage de 17 ans nous a donné ses 8 jours parce qu'on avait écrit à sa mère que je l'avais séduite. Ce qui est assez risible quand on voit dans quel état je suis. Mais, comme a dit la mère, il n'y a pas de fumée sans feu.
Et il y a beaucoup de fumée, sûrement. Pourquoi avez-vous été si surpris lorsqu'Owen vous a parlé des autres lettres?
Parce que je pensais qu'on nous en voulait en tant qu'étrangers à Limstock. Je vois que c'était au contraire une façon de nous adopter.
Comment était l'écriture?
L'écriture? Mais des lettres découpées dans un journal.
Ce qui me frappe dans ces lettres, c'est que l'auteur a l'air d'ignorer ce qu'il pourrait dire vraiment. Une sorcière locale devrait être au courant des secrets d'une petite ville. On dirait qu'elle les ignore, ou qu'elle l'était. C'est singulier.
Elle frappe au hasard, comme dit Owen. Tiens, et Miss Griffiths passe le thé.
Elle me rappelle le chien de ma voisine, toujours à japper et à remuer la queue.
Voilà ma sœur. Puis-je vous la présenter, Miss Marple?
Bonjour, mon enfant.
Bonjour, mademoiselle. J'ai pu me décoller de Symington. Un raseur doublé d'un frigidaire.
Johanna!
Il me rappelle le marguillier de mon village. Jamais un mot plus haut que l'autre. À ceci près qu'il s'enfermait chez lui tous les samedis pour jurer à son aise.
Mais tout le monde vous rappelle donc quelqu'un d'autre, Miss Marple.
La nature humaine se répète, Monsieur Burton, voyez-vous? Elle manque d'imagination. Le moindre petit groupe est une réduction du monde entier pour qui prend le temps de le regarder.
Et je vous rappelle quelqu'un, Miss Marple, moi aussi?
Certainement, ma chère. La petite fille de la pharmacie, qui se mettait à 12 ans des hauts talons, du rouge à lèvres et des bigoudis pour qu'on la traite en grande fille, et qui venait pleurer chez moi quand un garçon s'y laissait prendre.
Miss Burton, venez vous jouer, vous pourriez remplacer Miss Griffiths à ma table.
Je joue fort mal.
Ah, vous jouez sans doute aussi bien que Miss Griffiths qui jette ses cartes absolument au hasard.
Moi pas, mais j'aime le risque, je vous en préviens.
Je ne le redoute pas au bridge, le risque calculé seulement.
Excusez-moi, Monsieur Symington.
Miss Holland?
Je n'ai pas retrouvé vos marques habituelles, Monsieur Symington. Alors j'ai pris celles-ci, elles vous conviennent?
Mais certainement, Miss Holland.
Tant mieux alors. J'aurais été navrée de mal faire. Je retourne à vos chérubins, Monsieur Symington.
Duc, votre table vous réclame. Avez-vous pensé au thé, si?
Certainement, Madame Symington. J'ai rappelé à Agnès qu'elle le serve à 5 heures.
C'est bien, merci. Venez, Dick. Appleton veut vous dire un mot.
Je vous suis, cher ami. Vous nous rejoignez, Miss Burton?
Sûrement. Et toi, Jerry, tu rejoins la gouvernante?
Oh, non, je t'en prie.
Quoi, c'est un joli morceau.
Elle me rappelle un lévrier que j'ai eu. Jolie ligne, mais qui aboyait bêtement.
C'est vrai, elle a à peu près autant de sexe à pile qu'une langouste, la pauvre fille. Avec ça, le dévouement incarné. Moi, si j'étais carrossée comme elle, j'en ferais des ravages. Ouf, je vais aller en faire au bridge.
Vous vous levez aussi, Monsieur Burton?
Excusez-moi, mademoiselle, j'ai besoin de prendre un peu l'air.
Deux cœurs.
Contre.
Sur contre.
Ah, ça va être amusant.
Deux piques.
Je peux t'aider, maman?
Tu vois bien que je joue au bridge, Megan. Ne sois pas toujours dans les jambes des gens. Va plutôt jouer avec tes frères et Miss Holland.
Ce ne sont pas mes frères et je déteste Miss Holland. C'est une gourde.
Megan!
Excusez-moi, je vais prendre le thé à la cuisine. Avec Agnès, l'autre souillon. Bonsoir.
Megan! Mais enfin, cher ami.
Pardonnez-la, elle est en plein âge ingrat.
Alors, Johanna, ce bridge?
J'ai gagné 10 fiches.
Une pauvre Meghan, n'est-ce pas?
Sa mère ne semble pas l'aimer beaucoup.
Sa mère ne semble aimer personne. Je me demande qui elle peut rappeler à Miss Marple.
Un hérisson, peut-être. Drôle de vieille fille, cette Marple.
Enfin, mon pauvre vieux, si tu en es réduit à te rabattre sur les centenaires, où allons-nous?
Oh, je t'en prie.
C'est vrai, côté fille, c'est minable, Limstock. À part Elsie Holland, la gouvernante.
Oh, très peu pour moi, hein. Elle est dévouée et idiote.
Et Meg Griffith aussi. Tu vois là bien lotie.
Oui, mais elle n'est pas idiote, mais c'est pas mon type. Je te signale incidemment que côté homme, tu n'es pas mieux lotie, mon ange.
Moi, j'ai le toubib.
Johan.
Écoute, il a contré toutes mes déclarations au bridge. Je ne peux pas moins faire que de provoquer la sienne.
Johanna, mon petit bonhomme, nous sommes venus chercher le calme à Limstock. Et pas les complications, tu m'entends? J'ai besoin de calme, moi. Et...
Oh, Meghan.
Je vous guettais, Jerry.
Moi?
Oui, Jerry. Vous avez dû me trouver impossible au salon tout à l'heure.
Mais non, Meghan.
Oh, ne mentez pas. Je sais bien que j'ai été impossible. Mais vous le seriez aussi tous les deux si vous vous sentiez en trop comme moi.
Dites pas de bêtises.
Mais je suis en trop, Johanna, dans ma famille où ma mère serait tellement plus tranquille entre son mari et ses fils, sans moi, qui lui rappelle toujours l'autre, mon père. Et à Limstock, où je ne suis bonne à rien.
Oh, si vous voulez, vous organisez une vie ailleurs et travaillez.
Gros malin.
Je ne sais rien faire, Jerry. Puis, pourquoi m'en irais-je? Parce qu'on ne veut plus de moi? C'est trop simple. J'aime mieux rester pour les ennuyer.
Meghan.
Je les déteste, tous les gens de Limstock, vous comprenez? Ils me trouvent stupide et laide. Mais je leur montrerai qui je suis, je leur montrerai. Seulement vous. Vous n'êtes pas d'ici, alors. Si vous pouviez ne pas me détester.
Oh, voyons, Meghan. Vous savez bien que nous vous trouvons très gentil.
Merci, Jay.
Meghan.
Au revoir.
Meghan.
Laisse. Elle file, la pauvre gosse.
C'est égal. Une mère comme la sienne, ça ne mérite pas de vivre.
Elle est morte, Monsieur Burton.
Mais qui est morte, Mary?
Madame Symington.
Hein?
La pauvre femme, que Dieu ait son âme. Elle s'est suicidée elle-même, en plus.
Quoi, Madame Symington?
Mais Dieu aura quand même pitié, vu qu'on l'y a poussé, mademoiselle.
Enfin.
Oh, une de ces saletés de lettres du diable, comme je vous dis.
Et elle disait quoi, elle, la lettre?
Le diable sait à cette heure, et bien des gens, mais moi, c'est diablerie qui tue, je veux rien savoir.
Enfin, une lettre anonyme ne tue pas, voyons, Marie.
Sauf si elle dit la vérité, mademoiselle.
Enfin.
Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Enfin, c'est bien triste pour ceux qui restent. Je vais chercher le thé.
Ainsi, Owen avait raison. Une des lettres a fait mouche.
Il disait ça, cet imbécile prétentieux.
Johanna, Owen n'est ni un imbécile, ni...
Je m'en fiche. Oh, c'est un coup dur pour Symington. Pour la gosse, surtout.
Ça, oui. Hein.
Comment prendra-t-elle ça, pauvre gosse? Tu te rends compte si elle doit se sentir seule dans cette baraque? Entre les mioches, le veuf et la brave Elsie qui est toujours partout où il ne faut pas.
Et que peut-on y faire?
La prendre chez nous quelques jours.
Ah, si elle veut bien.
Allez, grouille-toi de ramasser tes cannes, on va lui demander.
Dis donc, ils ont déjà accroché du crêpe à la porte. On porte vite le deuil chez les Symington. Tiens, voilà le docteur. Bonjour, docteur.
Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Burton. Vous êtes au courant?
Oui. Les lettres ont fait une victime, on dirait.
Et c'est bien un suicide?
Sûrement. Elle s'est empoisonnée au cyanure. Il y en avait une provision pour tuer les guêpes. Elle a griffonné un mot, ça n'est pas possible. Symington l'a trouvée inanimée hier en rentrant, le mot chiffonné au pied de son lit. Comme la lettre anonyme.
Excusez-moi d'être indiscret, mais cette lettre...
Oh, ça n'a plus rien d'indiscret, hélas. On la lira sûrement à l'enquête. La lettre prétendait que le dernier fils n'était pas de Symington.
Et ça peut être vrai?
Je ne le crois pas. Évidemment, Colin ne ressemble pas à son frère, mais les Symington formaient un ménage assez uni. Et si Madame Symington avait eu des faiblesses, on l'aurait su, à Limstock.
Autrement dit, l'auteur des lettres frappait encore une fois au hasard. Hein?
Sincèrement, il a dû tomber juste. Sinon, elle ne se serait pas tuée.
Elle était déprimée depuis longtemps, sans le moindre ressort. Elle aura pensé que Symington ne croirait pas un mot de ses dénégations et elle aura lâché. Ah, vous allez trouver Symington tout à fait anéanti.
Vous croyez qu'il nous confierait Meghan pendant quelques jours?
Ah, ce serait une excellente chose pour elle, en tout cas. Elle a une curieuse nature, très impressionnable sous ses dehors agressifs. Votre compagnie lui ferait du bien, sûrement. Vous êtes si douce, mademoiselle. Bonsoir.
Mais il se fiche de moi.
Qui sait? Allez, entre, j'entends la douce voix de Miss Holland.
Je peux entrer?
Jerry, c'est vous, Jerry. Oh, Jerry.
Megan, Johanna a pensé que vous pourriez venir habiter quelques jours avec nous si vous le désirez. Alors je...
Chez vous? Vous voulez vraiment?
Mais oui, mon petit.
Oh, emmenez-moi, je vous en prie, emmenez-moi tout de suite. Si vous saviez comme c'est désagréable de se sentir méchant. J'ai peur, je ne me savais pas si méchante.
Non, ne dites pas d'idiotie, emballez vos affaires. Nous partons, je vous attends en bas.
Mais vous m'attendez, hein? Vous m'attendez vraiment?
Mais oui, Megan, je vous attends.
Oh, excusez-moi d'être si bête, mais la mort d'une mère, c'est terrible, Jerry. Même quand on ne l'aimait pas. Oh, Jerry!
Je vous attends en bas, grosse bête.
Alors, vous avez vu Megan, Monsieur Burton?
Oui, elle vient avec nous, Miss Hollande.
J'espère qu'elle ne sera pas trop insupportable, pauvre enfant. Excusez-moi, j'entends le téléphone. Le pauvre Monsieur Smithton n'est pas en état de répondre, il faut que j'y aille.
Je vous en prie.
Bon ange, va.
Elle est très gentille et très capable.
Oh, très capable, sûrement. Hein. Capable de tout.
C'est-à-dire?
Ce que j'ai dit. L'enquête publique aura lieu dans 3 jours, il paraît.
Ah, ça va être gai.
Qu'est-ce qu'il y avait comme monde à l'audience, Jerry? Heureusement que Megan n'a pas vu ça.
Oh, flûte, voilà Amy Griffiths.
Oh, quelle horrible chose, n'est-ce pas? Le pauvre Monsieur Symington.
Et pauvre Megan aussi.
Ah oui, naturellement. C'est très bon à vous de l'héberger. Oui. Si elle vous ennuie trop, nous pourrons la prendre chez nous. Owen est si dévoué.
Elle ne nous ennuie pas le moins du monde. C'est une fille charmante et très intelligente.
Oh, allons donc, je la croyais un peu arriérée.
Évidemment, sa mère l'a traitée comme si elle avait toujours 12 ans.
Oh, la pauvre femme a eu bien des torts, c'est indéniable. Je ne veux pas en dire du mal maintenant qu'elle est morte, mais en dehors du bridge, des potins et de ses enfants, dont la gouvernante était d'ailleurs la seule à s'occuper, elle ne connaissait pas grand-chose. Enfin, néanmoins, je ne soupçonnais pas l'affreuse vérité.
Quelle affreuse vérité?
Eh bien, toutes ces turpitudes. Ce pauvre Dick, comme il doit souffrir.
Mais il est persuadé qu'il n'y a pas un mot de vrai dans la lettre. Il l'a dit à l'enquête.
Il ne peut pas faire autrement, c'est un homme du monde, je le connais depuis longtemps. Il doit beaucoup souffrir de ce scandale, car entre nous, il n'y a pas de fumée sans feu.
Ah oui?
Vous pensez bien que si elle n'avait rien eu à se reprocher, elle aurait brûlé cette lettre comme moi. J'aurais fait.
Ou comme vous avez fait, mademoiselle.
Pourquoi le nier? J'ai reçu moi aussi une de ces lettres abominables. Mais j'en ai ri, c'était si absurde.
Pourtant, il n'y a pas de fumée sans feu.
Attention, voilà Symington.
Oh, oh, cher Dick... Comme tout cela doit vous être pénible.
Affreux, oui. Bonjour, Burton.
Bonjour.
Il paraît que votre sœur s'est chargée de Megan.
Oui, nous serions ravis de la garder encore quelques jours.
Oh, je vous la laisse avec joie. Elle est si étrange.
Et que comptez-vous en faire après?
Elle reviendra à la maison, je suppose. Après tout, elle y est chez elle. Et puis, je dois cela à ma pauvre Lucie. Comme aussi de retrouver l'auteur de cette lettre qui l'a tuée. À ce propos, le commissaire nous attend cet après-midi avec un spécialiste des affaires de lettres anonymes. Burton, je compte que vous viendrez.
Mais certainement.
Alors, que vous a dit le spécialiste de Londres, Monsieur Burton?
Tiens, Miss Marple, comme c'est aimable de rendre visite à ma sœur.
Et avec son tricot, surtout.
Je ne le quitte jamais. Que vous a-t-il dit?
Eh bien, que les 10 lettres qu'il avait vues se ressemblaient toutes entre elles.
Bien sûr. Comme les abeilles de mon voisin. La même ruche et le même miel, voyez-vous.
Elles se ressemblent en quoi, Jerry?
D'abord, le texte est composé de mots découpés dans un vieux livre de 1850 environ.
Et il cherche, ce livre?
Sans espoir.
Et la machine sur laquelle on tape les enveloppes, il la recherche?
Il l'a même retrouvée.
Quoi?
Oui, oui. Elle a été donnée par Madame Symington à l'Institut féminin de Limstock, où elle est en permanence à la disposition de toutes les femmes.
Par Madame Symington? Oh, c'est horrible.
Je sais qu'il me rappelle, je sais. Le pasteur de chez moi.
Mais alors, ça ne mène à rien d'avoir retrouvé la machine. À moins que la frappe puisse renseigner...
Oh, fort peu. Les adresses ont été tapées avec un doigt.
Par quelqu'un qui ne sait pas taper, alors.
Ou qui veut le faire
croire. Mais si, c'est quelqu'un qui ne sait pas taper. Tiens, j'ai montré mon enveloppe à Miss Marple. Elle a remarqué qu'il y avait une faute de frappe dans mon nom, n'est-ce pas?
Excusez-moi, vous disiez?
La faute de frappe dans mon nom. On avait tapé Miss Barton et on en a fait Burton après, en gommant.
Ce n'était pas forcément une faute de frappe, Johanna.
Si, écoutez...
Mais une erreur, mais pas une faute, mon chou. L'expéditrice savait que nous habitions à l'adresse d'Emily Barton. Elle aura mis ce nom par habitude, puis corrigé.
Tu dis l'expéditrice?
Mais c'est une femme, forcément, mon chou. Aucun homme n'a accès à l'Institut féminin.
Évidemment. Comme pour le pasteur, il avait donné son harmonium à l'église parce que dans sa maison, des souris venaient y faire leur nid. Et à l'église, il n'y avait pas de souris. Mais il en est sorti un rat.
Jerry,
C'est la sorcière, j'en suis sûre.
Non, Johanna. L'inspecteur affirme que seule une dame, ayant reçu une certaine éducation, a pu écrire ses lettres sans y faire de faute d'orthographe.
Une dame d'ici, tu veux dire?
Oui. Toutes les lettres ont été envoyées et tapées d'ici.
Mais une dame, ça ne peut être que... Enfin, quelqu'un que nous connaissons, Jerry.
Bien sûr, Johanna. La femme du pasteur, ou vous, ou moi, ou Aimé Griffiths, ou Meghan, ou Elsie Holland, à la rigueur. Quelqu'un de normal, quelqu'un de familier.
Oh, quelle horreur. Elle doit être épouvantée de ce qu'elle a fait. Elle va s'arrêter sûrement, mais trop tard.
Tu vois, le docteur pense qu'elle savoure sa puissance et que, au contraire, ça va l'encourager à continuer.
Non, Jerry.
Si! Quant à la femme du pasteur, elle la plaint de se sentir tellement seule et abandonnée qu'il lui faille faire le mal.
Elle n'est pourtant pas à plaindre, à mon avis.
Elle est à interner, plutôt.
Oh non, je la crois très sensée, mais habitée par le mal. Je devrais savoir qui. Ah, mais je suis si vieille. Je ne vois pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire très vite, surtout.
Pourquoi très vite?
Mais parce que l'auteur des lettres commence à avoir peur, naturellement.
Parce qu'elle ne voulait pas la mort de Madame Symington?
Parce que rester anonyme est devenu pour elle une question de vie ou de mort. Et maintenant, il lui faudra faire très attention et s'arrêter. Mais elle ne le peut plus, enfin, je pense.
Parce qu'elle a pris goût à ses ordures.
Parce qu'elle a commencé quelque chose, c'est tout.
Peut-être.
Vous êtes étranger au village. Certaines choses qui nous échappent peuvent vous alerter. Faites très attention. Il faut l'empêcher de frapper encore. Venez me voir à l'occasion, nous en reparlerons. Mmh.
Es-tu passé chez Miss Marple, Jerry?
Non, quelle idée.
Bah, tu rentres si tard.
Owen m'a retenu. Sais-tu où est Meghan?
Rentrer chez elle.
Mais pourquoi, bon sang? Qu'est-ce qui lui a pris?
J'en sais rien, mon pauvre vieux. On bavardait tranquillement après ton départ, on a appelé au téléphone et ça n'était même pas pour moi. C'était la petite bonne des Symington, Agnès, qui demandait à passer son jour de congé ici avec Mary. Je lui passe Mary, je retourne auprès de Meghan, je la trouve avec Aimé.
Aimé Griffiths?
Il n'y a pas 50 Aimé dans le pays, Dieu merci. Alors je leur parle du coup de téléphone d'Agnès.
Quelle Agnès?
Mais la petite bonne, écoute, essaie de suivre un peu la conversation.
Oui, oui, bon.
Alors je dis qu'elle vient passer son jour de congé avec Mary, et là-dessus Meghan enchaîne. Bon, eh bien, mon congé à moi est fini, je rentre chez moi maintenant.
Et tu l'as laissé dire?
Ah, et que voulais-tu que je fasse avec Aimé qui était là?
Mais que tu ne les laisses pas seuls ensemble, idiote.
Quoi?
Mais évidemment, cette espèce de chipie d'Aimé lui aurait expliqué qu'elle nous gênait. La pauvre gosse l'aura cru.
Ça a l'air d'en faire, en effet, qu'elle soit partie.
Mademoiselle a sonné?
Oui, repassez le pudding, Mary, s'il vous plaît.
Bien, mademoiselle.
Et au fait, votre petite réception s'est bien passée cet après-midi?
Je vous remercie beaucoup, mademoiselle, mais Agnès n'est pas venue.
Oh, ma pauvre Mary, c'est la journée des désillusions, décidément.
La paix, tu veux?
Oh, je ne suis pas déçue, mademoiselle, c'est une jeune personne qui ne sait pas vivre. Elle m'appelle pour me dire qu'elle a quelque chose de très important à me confier, elle ne vient pas. A-t-on idée de ça? Elle ne donne même pas signe de vie.
De vie?
Oui, monsieur, je vais chercher le pudding.
Non, attendez. Est-ce qu'elle a le même jour de congé chaque semaine?
Naturellement, monsieur.
Et à quelle heure rentre-t-elle habituellement?
Pour le dîner, monsieur, bien entendu. Je vais chercher le pudding, mademoiselle.
Oui, oui, Marie. Qu'est-ce qui te prend, Jerry?
Apporte-moi le téléphone.
Tu veux appeler ta chère Meghan?
Je veux savoir si Agnès est rentrée. Fiche-moi la paix.
Meghan, Agnès, la gouvernante, tu en veux aux femmes de cette maison?
Bon, tu ne comprends donc pas, espèce de buse. Il y a tout juste une semaine que Madame Symington est morte.
Je sais.
Elle était seule chez elle parce que c'était le jour de congé des domestiques. Et il y a 8 jours de cela.
Et alors?
Et alors? Agnès téléphone aujourd'hui à Mary qu'elle a quelque chose d'important à lui confier.
Une histoire de cœur, probablement.
Et où? Alors quelque chose dont elle s'est souvenue avant de quitter la maison Symington.
Oh,
quelque
écoute.
Chose qui aurait trait à la mort de sa maîtresse. Et dans ce cas, si elle n'est pas venue, c'est qu'on l'a empêchée de venir. Allô?
Allô?
Allô, ici Jerry Burton.
Bonjour, monsieur Burton.
Est-ce que votre petite domestique Agnès est rentrée, Miss Holland? Oui, Miss Holland. Agnès.
Mais je pense que oui. Pourquoi, monsieur Burton?
Excusez-moi de vous déranger. J'aimerais que vous vous en assuriez.
Très bien, je vais le faire.
C'est malin, la belle Elsie Holland va croire qu'il y a une deal entre Agnès et toi.
Oh, si tu savais ce que je m'en fiche, alors.
Allô?
Oui?
Vous aviez raison, la cuisinière vient de me dire en passant qu'Agnès n'est pas rentrée. C'est très surprenant.
Peut-être pas tant que ça.
Vous pensez qu'il a pu lui arriver un accident?
Un accident, je n'en sais rien, mais... il lui est sûrement arrivé quelque chose.
Allô, j'écoute.
Je voudrais parler à Monsieur Burton.
Il est 7h30 du matin, mademoiselle, à 7h6, il dort.
Oh, je vous en prie, dites-lui.
Qu'est-ce que c'est, Mary?
Oh, vous étiez là, monsieur. C'était mademoiselle Megan. Je lui ai dit que vous dormiez et je...
Megan?
Ai-je tort, monsieur?
Oui. Allô?
Oh, c'est vous, Jay. Jay!
Qu'est-ce qu'il y a, Megan?
Venez, je vous en supplie, venez. Je l'ai trouvée.
Agnès?
Elle est morte, Jerry. Elle était sous l'escalier, dans le placard où l'on range les cannes de golf. Oh, c'est ridicule. N'est-ce pas, Jerry? Oh,
Je viens, mon petit, je viens.
Comment, tu ne ramènes pas Megan?
Elle n'a pas voulu.
J'essaierai de la décider, moi. Entre quand même, Miss Marple est là.
Mais qu'est-ce qu'elle fait ici?
Elle tricote. Elle me parle de la nature humaine. Je t'en prie, prends la relève.
Ainsi, c'est Agnès, cette fois.
Mais comment diantre le savez-vous, Miss Marple?
Parce que votre sœur me l'a dit, voyons. Remarquez, en vous voyant passer si vite devant ma maison ce matin, je me suis bien douté que quelque chose était arrivé à quelqu'un.
Et vous aviez aussi deviné que le quelqu'un, c'était Agnès.
La nature humaine étant ce qu'elle est, j'avais plutôt pensé à Megan. Vous alliez si vite...
Écoutez, Miss Mabro.
Parle-nous plutôt du meurtre d'Agnès.
Je n'en sais pas grand-chose. Les deux domestiques avaient leur congé le même jour, comme d'habitude. La cuisinière a quitté la villa à 2h30, comme chaque mercredi. Symington est parti à son heure habituelle, 2h35. Et Elsie et les enfants sont sortis à 3h moins le quart.
Comme tous les jours, je les vois de ma fenêtre. Une personne très ponctuelle, Elsie Hollande.
Très. Et Megan?
Megan a croisé les enfants, est passée chercher son vélo au garage et a quitté la villa à 3h moins 10. À partir de cet instant, Agnès était seule à la maison.
À quelle heure est-elle morte?
Entre 2h30 et 4h30, d'après Owen Griffiths.
Assommée, tu m'as dit?
Assommée d'abord. Puis on lui a enfoncé une broche de cuisine à la base du crâne.
Oh, c'est horrible.
Et naturellement, elle n'avait encore rien dit, la pauvre fille.
Rien dit de quoi?
De ce qu'elle savait de la mort de Mme Symington, Joanna.
Pourquoi aurait-elle su quelque chose?
Elle savait quelque chose, Joanna. Depuis la mort de sa maîtresse, elle semblait très abattue, très angoissée même. Hier matin, elle aurait déclaré à la cuisinière qu'elle ne pouvait plus garder son secret pour elle. Il faut croire qu'elle ne l'a pas dit seulement à la cuisinière.
Mais que pouvait-elle savoir?
Mais qui écrivait les lettres, naturellement. Elle n'était pas sortie le jour de la mort de Mme Symington.
Elle était rentrée à 3h30, après une dispute avec son amoureux. Elle s'est probablement rendue dans l'office et... de là, elle a vu l'auteur des lettres déposer la sienne dans la boîte.
Mais comment? La lettre n'était pas venue par la poste?
Non. On avait imité le cachet postal pour qu'elle semble avoir été distribuée avec le courrier.
C'est-à-dire en même temps que le courrier?
Avec en même temps, ça revient au même. La petite voit par la fenêtre de l'office, quelqu'un qu'elle connaît, déposer une lettre. Elle ne comprend pas tout de suite que c'est la lettre anonyme, parce qu'elle n'imagine pas cette personne envoyant ce genre de missive. Et puis elle y repense. Elle veut venir demander conseil à Méré, notre domestique. L'auteur des lettres la prend et s'en débarrasse.
Non, Jerry, dis-moi que ce n'est pas quelqu'un que nous connaissons qui a fait ça.
Si, Joanna.
Mais c'est ignoble! Ce mépris de jeter cette fille dans le placard comme un paquet d'étoffes.
Ça, c'était de la prudence, ma chère. Si seulement je n'étais pas si vieille. Si je trouvais la clé de ces mensonges. Car chacun ment toujours de la même manière. De la même manière, oui. Il y a une parenté dans tout cela. Les lettres, les crimes.
Un écran de fumée.
Voilà, c'est cela. Vous êtes très intelligent. Un écran de fumée.
C'est Miss Hollande, mademoiselle.
Qu'est-ce qu'elle veut, cette ravageuse? Faites-la entrer, Mary.
Bonjour, mademoiselle. Miss Marple.
Mademoiselle.
Je vous rapporte vos gants, monsieur Burton. Vous les avez oubliés tout à l'heure.
Oh, il ne fallait pas vous déranger, mademoiselle.
Oh, ça ne m'a pas dérangée. Je promène les enfants comme chaque matin. Alors, venir ici ou ailleurs, je vais les rejoindre au jardin.
Non, non, attendez un instant. Nous parlions du meurtre d'Agnès.
Oh, quelle chose horrible, n'est-ce pas? Quand je pense que, quand je suis rentrée hier soir, cette petite était déjà morte. Je suis passée à côté du placard, mais... plus de 10 fois pour aller préparer le thé à la cuisine et le servir.
C'est vous qui prépariez le thé le jour de congé des domestiques, mademoiselle?
Naturellement, je fais le thé pour les enfants et pour Monsieur Symington quand il arrive. Il rentre toujours à 5h pile et il trouve son plateau tout prêt. Hier, il est même venu prendre le thé avec nous dans la salle d'études.
Et dire que cette petite était là pendant tout ce temps, c'est horrible. Tout paraissait si normal, n'est-ce pas, si gai?
Et la semaine dernière...
Vous voulez dire le jour où cette pauvre Madame Symington...
Oui.
Oh, ça a été encore plus affreux ce jour-là. Je revenais un peu en retard, n'est-ce pas? J'ai aperçu Monsieur Symington qui arrivait de son bureau. Et vous vous rendez compte, il était 5h10 et je n'avais pas encore mis ma bouilloire au feu pour le thé.
Êtes-vous allée voir Madame Symington en rentrant?
Quelle idée, mais jamais! Après le déjeuner, elle faisait toujours la sieste à cause de sa migraine. Elle descendait à son réveil. Le docteur Griffith lui avait donné des cachets pour dormir, vous comprenez?
Et personne ne lui montait le courrier?
Oh, bien sûr que non. Ou bien je le ramassais dans la boîte en rentrant, ou bien le prenait elle-même en se réveillant. Elle se levait d'habitude vers 4h, vous savez.
Et ce jour-là, vous n'avez pas pensé aller la chercher, hein, ne la voyant pas debout à 5h?
Oh, pas du tout, Monsieur Symington non plus. Il l'a appelée 2 fois en rentrant avec nous, et puis il est monté dans sa chambre, et puis... Oh, quelle chose horrible ça a dû être pour ce pauvre homme de la trouver inanimée. Une femme qui était encore vivante au déjeuner, que l'infamie, que ces lettres anonymes.
Vous n'en avez pas reçu vous-même, mademoiselle?
Oh, mais jamais de la vie. Pensez bien que si j'en avais reçu, je l'aurais dit. Il faut que j'aille chercher les enfants maintenant.
Je vous conduis.
Comment se fait-il qu'elle n'ait pas reçu de lettres, cette souris?
C'est la chose la plus intéressante que j'ai jamais entendue, Joanna.
Pensez-vous, Allemand? Quand on écrit des lettres anonymes de ce genre-là, c'est toujours aux jolies filles qu'on s'en prend d'abord, non?
C'est justement ça qui est intéressant.
Vous voulez dire... Vous croyez que c'est elle qui... Géry?
Mais non, je ne veux rien dire. Nous nous trouvons en face d'un plan diabolique, j'en ai bien peur. Et elle n'est pas diabolique, la pauvre fille. Un mouton.
Qui n'est pas diabolique?
Elsie Hollande. Tentante. Mais c'est différent.
Non, c'est vrai, elle est trop belle. Trop saine pour écrire ça. Et pour frapper cette pauvre gosse. Ça ne peut pas être quelqu'un de sain. À plaindre, sans doute.
Non.
Si. Si, voyez-vous, si je n'étais pas si jeune, si j'étais, comment dire, emprisonnée derrière des barreaux à subir le bonheur des autres, peut-être que je me révolterais, que je voudrais torturer et détruire. Mais qui peut être assez malheureux à Limstock? Qui, Jerry?
Je crains de le savoir. Ce serait abominable. Donnez-moi le bras, Jerry. Je voudrais prendre l'air.
Monsieur Burton, il paraît que vous avez été l'un des premiers sur le lieu du crime.
Mais oui, mes amis.
Oh, tout Limstock est bouleversé. Mon frère m'a dit qu'on lui avait enfoncé un poignard dans la nuque. Oh, c'est un crime passionnel, sûrement.
À cause du poignard?
Oh, parce qu'elle courait beaucoup, simplement. Il paraît que Meghan a trouvé le corps.
Oui.
Oh, elle est déjà pas si équilibrée, pauvre enfant. Ça va la rendre tout à fait folle.
À propos de Meghan, que lui avez-vous dit pour qu'elle nous quitte si subitement hier?
Ce que les mauvaises langues répétaient, n'est-ce pas? Elle s'est trouvée dans une situation si délicate.
Délicate en quoi, je vous prie?
Bien sûr, elle a fait ce qu'elle devait faire. S'en aller en abandonnant les enfants, c'était impossible. Mais des ragots de ce genre peuvent nuire à une jeune fille qui travaille.
Mais Meghan ne travaille pas.
Mais je ne vous parle pas de Meghan, voyons, Monsieur Burton. Qui songerait à parler de Meghan? Mais Miss Holland, c'est autre chose.
Miss Holland?
À mon avis, elle est très sérieuse. Mais les gens prétendent qu'elle veut se faire épouser par Dick.
Par Symington? Qui est veuve depuis 8 jours?
Oh, bien sûr, c'est absurde. Mais elle est jeune et assez jolie, alors... Remarquez, je ne lui reprocherai pas de tenter sa chance ailleurs. Seulement le pauvre dit qui est si bon, si accablé par la mort de sa Lucie.
Mais raison de plus pour qu'il...
Les hommes sont les hommes, cher monsieur. Qu'elle se rende indispensable chez lui et elle lui mettra le grappin dessus à la fin.
Alors vous la prenez pour une intrigante, mademoiselle Aimée?
Moi? Pas du tout. Au contraire, je suis désolée qu'on la calomnie. C'est pour ça que j'ai conseillé à Meghan de rentrer chez elle. Si Dick et Elsie Holland ne sont plus seuls ensemble, personne ne pourra rien dire, n'est-ce pas?
Elle serait navrée que personne n'en dise plus de mal, si tu veux mon avis. Pauvre Owen. C'est une calamité pour lui d'avoir une sœur pareille.
Les sœurs, ça n'est jamais très drôle. Surtout les bonnes.
Il est si gentil, Owen. Regarde la jolie photo qu'il m'a apportée.
Parce qu'il est venu ce matin?
Pourquoi ne serait-il pas venu? Comment trouves-tu la photo?
Hideuse. Qu'est-ce que c'est?
Un foie hypertrophié. Il avait l'air tracassé, le pauvre Owen.
Entre les foies hypertrophiés et toi, on le serait à moins. Donne-moi ta photo, elle commence à se gondoler. Je vais la placer dans... Tiens, dans ce recueil de serments. Nom d'un chien.
Qu'est-ce que tu as?
Joanna! Il manque 10 pages. Et le bouquin de 1850, c'est le livre qui a servi à fabriquer les lettres.
Le livre? Alors c'est quelqu'un de la maison?
Mais n'importe quel visiteur, Joanna. Aimée Griffiths, la femme du pasteur.
La femme du pasteur? Sûrement, voyons, un livre de sermon.
Ou n'importe qui d'autre. Je vais le porter au commissariat. Tu m'accompagnes?
Je te dépose et j'irai chez Miss Marple. Attends, je laisse un message pour Owen qui devait m'appeler.
Dites au docteur que ce n'est plus possible pour mardi. Bon, voilà, je te suis.
Déjà 3 jours que cette petite Agnès est morte et je ne suis encore sûre de rien, Jerry. Je deviens très vieille, décidément.
Moi, j'ai résolu le problème en rêve, cette nuit.
En rêve? Racontez-moi.
Ça a commencé sur la phrase qu'on répète dans tout Limstock. Pas de fumée sans feu. Mm-hmm. J'ai pensé à des termes de guerre. Écran de fumée, message tronqué. Mm-hmm. Non, ça c'est autre chose. En fait, je voyais Elsie épouser le docteur Griffiths. Et tout me paraissait limpide.
Et le message téléphonique?
Excusez-moi, c'est autre chose. Un message que ma sœur avait laissé.
Jerry.
Qui disait?
Ce n'est plus possible pour mardi, je crois.
Et voilà. Je me doutais bien que c'était ça.
Quoi, ça?
Quelque chose de très banal, voilà tout. Des crocs de fumée, n'est-ce pas? Pour un meurtre, l'essentiel est que les gens regardent ailleurs. C'est très fort.
J'en viens à souhaiter de nouvelles lettres anonymes pour qu'on pince en fait cette saleté.
La police est persuadée qu'il y en aura d'autres.
Alors, si la police le croit, il y en aura sûrement.
Tu t'es bien amusé à Londres cet après-midi, Jerry?
Non. Ça m'a changé les idées. Mon toubib me trouve à peu près guéri.
Et Megan?
Quoi, Megan?
Tout Limstock sait que tu as rencontré Megan sur le quai de la gare et que tu l'as emmenée à Londres avec toi.
Et alors?
Alors tu l'es pas un peu cinglé, toi aussi?
Je le suis si peu que j'ai l'intention de la demander en mariage demain.
Jerry!
Elle est malheureuse, là-bas. Symington serait ravi de se débarrasser d'elle. Quant à Elsie Holland, à en croire la cuisinière, d'ici 3 mois, elle aura séduit le veuf éploré. Et puis, moi je l'aime, cette gosse.
Alors ça fera 2 mariages dans la famille. Moi, je veux épouser Owen. Et je commence à me mettre bien avec Aimée. Tiens, à propos, nous prenons le thé chez elle, demain avec les Symington.
Megan, restez un moment.
Pourquoi, Jerry?
Ce n'est peut-être pas astucieux de vous demander en mariage ailleurs que chez vous, mais tant pis, je le fais. Voulez-vous être ma femme?
Non, Jerry.
Je croyais que vous m'aimiez un peu.
Je ne sais pas aimer, Jerry. Je sais haïr, c'est tout. Rejoignons les autres.
Monsieur Burton. Excusez-moi, mademoiselle, je voudrais dire un mot à Monsieur Burton. Et si vous pouviez prévenir mademoiselle Aimée que je la demande?
Bien, commissaire.
Qu'y a-t-il, commissaire?
Nous tenons l'assassin, Monsieur Burton. Hier, il a écrit une lettre de trop. Lisez.
Vous ne prendrez pas la place de la morte. Filez ou il vous arrivera malheur. Elle était destinée à Miss Holland, je suppose?
Oui.
Et qui l'a écrite?
Miss Griffiths.
Non, Jerry, c'est impossible. Je suis absolument sûre que ce n'est pas elle.
Mais elle a avoué qu'elle avait tapé cette lettre hier à l'Institut féminin. On l'a vu la poster. Elle l'a avoué.
Ça, c'est possible.
Et le reste aussi. Le jour du meurtre d'Agnès, elle est arrivée en retard à sa réunion chez les guides. Elle portait un panier où elle pouvait cacher une matraque. Et de plus, on a retrouvé chez elle les pages dans lesquelles on a découpé les mots des autres lettres.
Mais c'est horrible, ça. C'est vraiment tout à fait horrible. Cette fois, il faut que je fasse quelque chose. Il le faut.
Cette vieille demoiselle a raison, ça ne peut pas être aimé.
Parce que c'est la sœur d'Owen.
Pourquoi elle? Pourquoi pas... Tiens, Megan?
Megan? Non, pas Megan.
Oh, excuse-moi.
Non, pas ma petite Megan.
Où vas-tu, Jerry?
J'ai besoin de la voir.
Jerry, ne faites pas de bruit.
Miss Marple. Et que faites-vous dans ce jardin?
J'ai tendu mon piège, venez.
Non, je veux voir Megan.
Vous la verrez? Approchez-vous de la fenêtre sans vous faire voir. Non, celle du bureau de Symington.
Les enfants sont assez grands pour aller en pension, Monsieur Symington, je trouve.
Non, Miss Holland. Non, Elsie. J'attendrai encore 1 an. Pour Colleen, ça vaut mieux.
Tu ne peux pas frapper avant d'entrer, Megan?
Non, père. Et j'aurais voulu vous voir seule.
Eh ben, bon. Vous voulez bien, Elsie?
Certainement, monsieur.
Pardon. Alors, Megan, que veux-tu?
De l'argent.
Ben, tu pouvais pas attendre demain pour m'en demander, non?
Non, parce que je veux beaucoup d'argent. Et vous m'en donnerez?
Sûrement pas.
Si vous ne me donnez pas beaucoup d'argent, je dirai ce que je vous ai vu faire un jour dans la chambre de maman. Il s'agissait d'un cachet. Un de ceux qu'elle prenait pour dormir, vous savez?
Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
Vraiment?
Vraiment, Megan. Mais tu deviens une grande fille, après tout. Tu as besoin de t'habiller en grande fille. Et enfin, prends ce chèque.
Ça ira pour aujourd'hui.
Du calme, Jerry.
Mais elle n'est plus en sûreté. Vous avez vu la tête de Symington quand elle est partie? On ne peut pas la laisser là.
Expliquez-lui notre plan, commissaire Nash.
Et le plan de Miss Marple a réussi, Joanna. Sinon, je ne serais pas là.
Il s'en est fallu de peu qu'il rate.
Mais non, vous étiez là à temps pour retirer ma tête de ce four à gaz, alors...
Alors, on ne fait pas courir un risque pareil à une femme.
Elle ne courait aucun risque, Joanna. Maintenant qu'on avait arrêté mes Griffiths, Symington ne pouvait rien tenter qui ne ressemble pas à un suicide de Meghan. Et il fallait bien le prendre sur le fait, n'est-ce pas?
Mais comment avez-vous compris que c'était lui?
À cause de la fumée et du feu, comprenez-vous. La fumée pour qu'on ne voit pas le feu. Un véritable écran de fumée qui accaparait l'attention. On regardait ailleurs, on s'occupait des lettres anonymes. Alors il n'y avait pas de lettres anonymes.
Mais j'en ai reçu une, enfin.
Un camouflage, Joanna. Pas une vraie lettre anonyme. Parlons d'un vrai scandale. Elle sonnait faux, vous comprenez? On les aurait dites écrites non par une femme, mais par un homme, ignorant des potins d'une stock. Donc, si on laisse la fumée de côté, qu'y a-t-il? Le feu, le fait vrai. La mort de Madame Symington. Qui avait intérêt à cette mort?
On pense toujours au mari.
La nature humaine étant ce qu'elle est, oui. Surtout s'il y a une autre femme chez lui, toute jeune et très jolie.
Mais comment imaginer ce glaçon amoureux?
Même les glaçons se dégèlent, cher enfant. Et quand ils se dégèlent sur le tard, c'est grave. Pour un homme comme Symington qui aime ses enfants et qui ne veut pas d'un scandale pouvant lui coûter sa place de notaire et qui veut aussi une solution, une seule... Que Mme Symington disparaisse.
Et le divorce?
Maman n'aurait jamais accepté.
Symington sait que dans les affaires criminelles, on soupçonne d'abord le mari. Donc, il faut faire croire au suicide. Il lance son écran de fumée, les lettres, et de telle sorte qu'on leur attribue une femme pour auteur.
Oh, je comprends. Il tape toutes ses enveloppes avant de faire cadeau de sa machine à écrire à l'Institut féminin.
Alors c'est pour cela que mon enveloppe à moi était d'abord adressée à Miss Barton?
Les lettres lancées, il passe à l'essentiel, le crime. Tout le monde est sorti. Il ignore la présence d'Agnès.
Au fait, qu'a-t-elle pu voir, Agnès?
Rien, je pense.
Alors il l'a tuée pour rien?
Non. Elle n'a vu personne déposer de lettres dans la boîte, ni le facteur, ni personne d'autre. Donc, elle finit par comprendre que Mme Symington n'a pas reçu de lettres. Mais pour Symington, tout est simple. Il met de l'acide prussique dans le comprimé de somnifère que doit prendre sa femme et il s'en va. Ensuite, à son retour, il monte chez elle, jette par terre la lettre anonyme chiffonnée et met au pied de sa femme un papier sur lequel elle avait écrit « Ce n'est plus possible ».
Quand l'a-t-elle écrit? Pourquoi?
Comme vous l'avez fait vous-même, ma chère, pour décommander un rendez-vous au téléphone. Tout va bien. Seulement, il entend Agnès avertir votre mère et qu'elle veut lui confier un secret au sujet de la mort de sa patronne. Il faut donc la supprimer. Quoi de plus simple que de paraître aller à son étude, de rentrer se cacher, d'assommer Agnès et d'arriver un peu en retard à son bureau, mais si peu, et sans que nul s'en aperçoive, puisque c'était une femme qu'on soupçonnait.
Mais la lettre écrite par Aimée Griffith?
La pauvre Aimée est amoureuse de Symington depuis toujours. Quand elle entend parler des ambitions matrimoniales d'Elsie Holland, elle succombe à la tentation d'épouvanter Elsie par une lettre anonyme de plus.
Alors?
Alors elle s'y montre la lettre à Symington, qui voit comment se tirer d'affaire en apportant chez elle les pages qu'il gardait pour y découper ses propres messages. et le voilà tranquille. Et sans Meghan, il le serait encore.
Tout de même, vous n'auriez pas dû lui faire jouer ce rôle. C'était trop dangereux.
Mon cher ami, nous ne sommes pas sur Terre pour esquiver le danger. D'ailleurs, vous le savez vous-même, puisque vous allez vous marier.
Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous.
S'il arrive que les jurys se trompent en décernant un prix, il arrive aussi qu'ils couronnent avec discernement un excellent ouvrage, et c'est le cas en ce qui concerne La Reine des Pommes. Le Grand Prix 1958 de littérature policière pour les romans traduits est allé en effet à La Reine des Pommes par Chester Himes, publié dans la série noire Gallimard. On peut le qualifier lui-même de roman noir puisqu'il est l'œuvre d'un écrivain de couleur et qu'il se passe dans le quartier nègre de New York, Harlem. Or, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, c'est un roman plein d'invention et d'une intense drôlerie dont chaque chapitre est une perle, noire naturellement, d'un collier de gags. Le héros est un noir nommé Jackson, employé chez un entrepreneur de pompes funèbres, M. Clay. Ce Jackson, crédule et simplet au point d'être considéré comme la reine des pommes, est marié de la main gauche avec une jolie fille, Imabel, dont le passé n'est pas très pur et qui a apporté en dot au foyer de Jackson une malle très lourde et très mystérieuse, dont nous apprenons qu'elle est pleine de pépites prélevées sur une mine dont un trio d'aigres fins essaie d'exploiter l'inexistence en répandant sur le marché des actions fictives. Or, un beau jour, après la visite alarmante d'un policier, vrai ou faux, Imabel disparaît avec la malle et pour la retrouver, Jackson fait appel à son frère jumeau Goldie, lequel a trouvé un métier fructueux. Déguisé en bonne sœur et clamant à tue-tête des versets religieux, il quête dans les rues. Il partage d'ailleurs un bel et confortable appartement avec deux amis, deux noirs, dont l'un, sous le nom de la Grande Cathy, gère un établissement réprouvé par la morale et dont l'autre, sous le nom de l'aidée gitane, tire les cartes et dit la bonne aventure. Tous les trois sont servis par une vieille bonne, la mère Loi. On les appelle dans le quartier les trois veuves noires. Les tribulations de Jackson, les interventions des veuves noires, la description des aigres fins et des policiers chargés de maintenir l'ordre dans un quartier en perpétuelle ébullition constituent un livre qui comporte au fond une morale, celle des compensations accordées aux pauvres d'esprit. Traité de cette façon, on ne saurait trop louer l'humour noir. La Reine des Pommes par Chester Himes a été publiée dans la série noire Gallimard.
Roger et Jean vous parlent du dernier film qu'il a vu.
On ne peut pas dire que les réalisateurs d'Une balle dans le canon aient recherché la difficulté. Ils ont demandé à M. Albert Simonin, spécialiste aise série noire, de fabriquer un scénario maison et puis ils ont tourné des mètres et des mètres de pellicule qui ne veulent pas dire grand-chose, mais qui, mis bout à bout, finissent par faire tant bien que mal 1h30 de projection. Ce genre de marchandise préfabriquée plaît-il toujours au public? Les producteurs semblent le croire. Nous, nous commençons à en douter, car nous devinons chez les spectateurs qui nous entourent une grande lassitude devant ces éternelles histoires qui sont toujours les mêmes et devant ces personnages qui sont aussi démodés que les héros d'Émile Augier ou de Georges Honnet. Dans le film qui nous occupe, il y a un Maltais, bien sûr, et quelques autres échantillons de la pègre montmartroise. Il y a des trafiquants, des cabarets du quartier Pigalle dont les arrière-boutiques sont des officines, des poursuites en automobile, un petit gangster du genre Fillette qui est bien gentil et l'on aimerait qu'il finisse ses jours dans les bras de la genoiselle qui l'aime très naïvement, mais la loi est la loi. Les acteurs font de leur mieux pour donner quelque apparence de vie à ces fantoches, mais il y a des tâches insurmontables. On doit féliciter, malgré tout, pour leurs efforts, Pierre Vanneck, Roger Hanin, Paul Francoeur, surtout. Quant à Mademoiselle Mijanou Bardot, on lui a demandé exclusivement de courir dans la campagne, de se montrer en pantalon, de taper dans une balle de golf, toute chose qu'elle fait très bien. Il semble que l'on ait montré beaucoup de sagesse en ne lui demandant pas de jouer la comédie. Je voudrais ajouter un court post-scriptum à ces quelques mots. Je vous ai dit la semaine dernière, à propos de la nouvelle version de Jeunes filles en uniforme, que Dorothée Havik, qui jouait dans le premier film le rôle de Mademoiselle de Bernburg, avait été tué dans un bombardement en Allemagne en 1945. Or, mon ami Charles Ford, l'un de nos meilleurs historiens de cinéma, me signale que c'est là un faux bruit qui avait couru en effet à l'époque. Dorothea Wick est parfaitement vivante, elle fait encore un peu de cinéma, du théâtre et de la radio en Allemagne. Rendons la vie à cette excellente comédienne et réjouissons-nous tous de cette heureuse nouvelle.
Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir La plume empoisonnée, d'après le roman d'Agatha Christie, dans une adaptation radiophonique d'Hélène Misery. Avec Denise Jans, sociétaire de la Comédie-Française, dans le rôle de Miss Marple. Et Madeleine Lambert, André Var, Jean Topard, Laurence Weber, Jean Bolo, Jeanne Dorival, Anne-Marie Duvernay, Simone Mathil, Geneviève Morel et Gaëtan Genre. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son, Jean Delanduc. Bruitage, Jean-René Niclès. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard.
Cette dramatique a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 25 novembre 1958. Rappelons que La plume empoisonnée, ainsi que Les dix petits nègres, témoins indésirables, La maison biscornue et Le meurtre de Roger Ackroyd, vient d'être réédité aux éditions du Masque avec une couverture illustrée par Martine Parr.